Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h15, André Berkoff.
Faut-il que ça se passe mal quand même pour qu'on en arrive à des heurts violents, plus que violents et répétés, entre pompiers et policiers? Faut-il que ça se passe drôlement pour que Marlène Schiappa, que le monde entier nous envie, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre femmes et hommes, a proposé que 50% des retransmissions sportives concernent le sport féminin? Après la parité, voici la marité. Faut-il que ça se passe drôlement pour qu'on vende ou continue à vendre la France à la découpe et à acheter, comme en Pologne, l'Union européenne, des avions américains plutôt que des avions français? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on va parler d'Hidalgo, bien sûr, et ses pistes cyclables, etc. Et on va recevoir le chef du service news de TF1, Guillaume Debray, qui a été pendant 16 ans correspondant aux États-Unis et qui parle de Donald Trump. Et comme Descartes, lui, c'est pas « je pense, donc je suis », c'est « je tweet, comme je suis ». Mais est-ce que ce n'est pas parce que Donald Trump est EST qu'il tweet? Tout ça, on en parle très fortement, tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
On l'avait vu mai 68, on avait vu les manifestations 95, 2005 et autres. On a vu pendant un an et demi les gilets jaunes sur les ronds-points, dans toutes les rues des villes de France. On a vu toutes les manifestations sur la réforme des retraites. Mais ce qu'on ne pensait pas voir, ce qu'on vraiment ne pensait pas voir, c'est des flics et des pompiers en train de se tabasser de manière violente. Qu'est-ce qui se passe? On en parle tout de suite.
Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour.
Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle. Au feu les pompiers, v'là la maison brûlée.
Eh oui, c'est gentil ça. C'était tout le monde, c'est les comptines de l'enfance. Au feu les pompiers. Mais oui, mais le problème c'est que est-ce qu'on n'en est pas là à ce que la maison brûle? Mais la maison brûle pas seulement en chanson, pas seulement dans les petites comptines. Mais quand on en arrive là, franchement, de policiers qui vont manifester et qui se casquent, qui se passent vraiment, on a vu des images quand même tout à fait hallucinantes. Un pompier en une terrasse, il met son casque, on lui envoie une LBD 40 de la part de policiers, il va perdre peut-être pas la tête, mais au moins l'œil. Enfin, tout ça est terrifiant, il se passe quelque chose. Alors, on connaît les manifestations de pompiers. Pourquoi? Alors, pourquoi les pompiers en grève? Pourquoi les pompiers sont en ras-le-bol? Je rappelle quand même, il faut le répéter 10 fois, 20 fois, 100 fois, que les pompiers sont des gens qui viennent pour sauver des vies, pour sauver des gens qui sont désarmés, qui arrivent, et on sait très bien ce qui se passe, comment ils se font caillasser, comment ils se font piéger dans un certain nombre de quartiers. Les pompiers sont aujourd'hui sur le grill. Pourquoi? Eh bien, un pompier en parle. Écoutez.
Heureusement qu'on est soutenu par la population, parce que par contre, par nos politiques, effectivement, on sent un petit peu oubliés, voire lésés, oui. On n'est pas reconnu en tant que métier à risque. On est de plus en plus soumis aux violences urbaines. Quand on part pour une intervention, par exemple, personne ne répondant pas aux appels, on ne sait jamais ce qui nous attend derrière la porte. Et tout ça, tout le monde ne connaît pas la réalité de cette façon du métier.
De plus en plus d'agressions chez nous, on a de moins en moins d'effectifs. Donc ça râle bol général. Bon, ça fait des années que ça dure. Hein. On a beau faire des réunions avec le ministre de l'Intérieur, il ne veut rien comprendre. Donc, il y a un moment donné, on est là, on était déjà là le 15 octobre, on revient là. S'il faut revenir, on reviendra.
Oui, et je me rappelle le dernier livre de Guy Debord, le théoricien de l'international situationniste, qui se situait à gauche, dans l'anarchisme, je dirais même à la gauche extrême, mais pas du tout marxiste, plutôt dans le côté anarchiste, et qui disait dans son dernier livre, paru en 91 ou 92, vous voyez, c'est pas d'hier, et il disait, lorsqu'on commence à caillasser et qu'on commence à agresser des pompiers, c'est que vraiment la société est en train de se déstructurer, est en train d'exploser, et de, non seulement de se dégrader, mais de partir en lambeaux. Et j'ai l'impression ce qui se passe, d'ailleurs il vient de le dire, et puis là, effectivement, on avait assisté déjà à des heurts entre pompiers et policiers, et là hier, ça a été très 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 violent, très fort. Et qu'est-ce qui se passe? Alors un pompier en parle, il explique la situation. Écoutez.
Bien, voilà, ils commencent, ils sont en train de nous naser là parce qu'ils veulent leur donner le rythme. Et nous, on veut juste manifester et montrer que c'est les pompiers, que c'est pas la police qui mène la manifestation. C'est juste ça qu'on demande. Et là, ils nous retiennent, on sait pas pourquoi. On comprend pas, la première manifestation, ils nous laissaient tranquilles. Et on voit qu'ils jouent déjà la provocation et on est encore pas arrivé à Nation, quoi. Et on demande juste de défiler tranquillement et que ce soit nous qui menons la manifestation. C'est normal, et ils se protègent. Et ce qu'on comprend, et après, ils ont des ordres, voilà. Donc c'est normal. Ouais, eux, c'est leur métier à risque. Et nous on n'est pas un métier à risque, quoi. On n'est pas un métier à risque. Et ça, il faut qu'ils le comprennent.
Alors, c'est bien ça. Et c'est le nœud du problème. C'est les pompiers à comprendre. Oui, ils sont devenus un métier à risque, oui, et ils le savent. Et c'est effectivement inadmissible. C'est vrai, les policiers sont là pour défendre l'ordre, pour maintenir l'ordre, pour défendre le citoyen, et quand il y a des manifestations, etc., il y a des risques. Les pompiers ne sont pas là pour ça. Les pompiers, on le redit, sont là pour sauver, sont là pour secourir, mais c'est devenu un métier à risque. Alors, pour répondre simplement, l'argument de Linda Kebab, qui est porte-parole d'un des syndicats les plus importants de la police, Linda Kebab dit oui, une grappe de 300 pompiers de Sud et le CGT partent à l'affrontement contre les CRS, bafouant les valeurs de dizaines de milliers de nos collègues soldats du feu. Les extrémistes anti-forces de l'ordre se servent de ces marginaux sans avoir un mot pour leurs revendications. Alors, chacun, vous voyez, chacun se défend. Les policiers disent non, écoutez, on ne comprend pas qu'ils fassent ça. La préfecture de police dit oui, mais les pompiers n'ont pas apporté de casque. S'ils ne portent pas de casque, on se demande dans quel état ils seront. Ce qui est le plus terrible, encore une fois, dans cette histoire, c'est qu'on en arrive là. Et que la France soit fracturée, soit archipélisée, soit morcellisée, soit en partition telle que ceux qui sont chargés d'un côté de maintenir l'ordre et de l'autre côté de sauver des vies en soient à se taper l'un sur l'autre. C'est quand même inadmissible, c'est incroyable et franchement, personne, ni nous, ni les princes qui nous gouvernent ne peuvent se déprendre de leur responsabilité là-dessus. Oui, parce que quand la violence arrive là, et avec les pompiers, eh bien, ça devient quelque chose qui bascule et c'est très, 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 très grave. Ça ne peut pas aller là, c'est pas possible. Et quand, vous savez, on a entendu, il y a deux jours, un ancien ministre de la Justice, hein, et quelqu'un qui est très connu, très honoré, très respecté, c'est celui à qui l'on doit l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter. Robert Badinter était interrogé lundi à C'est à vous. Et voici ce qu'il dit, Robert Badinter. Je le dis parce qu'on parle de violence et quelquefois, il y a des choses qui se disent et qui se contestent. Écoutez.
Ce degré de violence, non pas physique encore, mais verbal, rien. La démonstration ou la représentation d'une tête au bout d'une pique qui n'est rien d'autre que la guillotine.
La guillotine.
Continuité. Et pour moi, à mes yeux, absolument totalement condamnable. On ne peut pas admettre que quelque homme politique que ce soit, quelque femme politique que ce soit, on promène sa tête au bout d'une pique avec ce que cela signifie. Ce n'est pas admissible, je le dis, et du fond du cœur.
Oui, c'est très bien, Robert Badinter, de dire ça du fond du cœur, mais dites un peu ça du fond du cerveau aussi. Et Dieu sait si vous en avez un. La tête au bout d'une pique qui est baladée, est un masque, est une caricature, et heureusement. Et la tête au bout d'une pique n'est pas la tête de l'impétrant. Nous n'en sommes pas, et Dieu merci, j'espère qu'on n'en sera jamais, aux décapitations.
Il ne dit pas le contraire, après. Il parle du symbole, et il dit que le symbole est violent.
Eh bien, le symbole n'est pas la réalité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a deux choses, moi, qui m'ont choqué, je peux le dire, dans la déclaration de Robert Badinter. D'abord, c'est qu'il oublie que, pourquoi ils ont fait ça? Je ne dis pas, je ne les défends pas. On oublie que l'ADN de la République, c'est quand même 1789, 1792, 1793, où la guillotine fonctionnait à plein régime. Et je ne dis pas que c'est bien, mais enfin, ne pas oublier d'où c'est venu. Et ne pas oublier du tout, quand même. Je dis la violence, mais s'il n'y avait pas de violence, malheureusement, des fois, la violence est nécessaire, pas la violence sanglante de la Révolution. Mais moi, je pensais, quand il dit la violence, je condamne toute violence. Mais pas un mot sur les policiers, pas un mot sur les pompiers, pas un mot, Robert Badinter, sur ce qui se passe depuis un an et demi, et là-dessus, on ne vous a pas entendu. Alors moi, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Moi, ce que je n'aime pas, c'est l'indignation à géométrie variable. Je n'aime pas l'indignation à sens unique. Robert Badinter, on aurait dû l'entendre déjà depuis longtemps, puisque c'est une autorité respectable et tout à fait légitimement respectée. On aurait dû l'entendre sur tout le reste. Moi, je pensais, quand il a commencé à parler, je me dis, il va parler des violences qui se passent un peu partout, en disant, arrêtez. Non, ce qui l'a choqué, c'est l'emblème des têtes au bout d'une pique. C'est peut-être choquant, mais enfin, excusez-moi, heureusement, c'est un symbole et ce n'est absolument pas une réalité. Donc, il faut faire très attention là aussi. Quand justement des autorités, ce n'est pas un quidam, c'est une autorité, eh bien, il faut quand même réfléchir avant d'aller plus loin.
0-826-300-300. Vous avez sans doute vu à la télévision, ou alors entendu d'ailleurs les interventions et les reportages de Sud Radio ce matin dans Grand Matin Sud Radio. Manifestation émaillée de violence. Les pompiers face au CRS. Est-ce qu'effectivement on est condamné en France à voir de plus en plus de manifestations qui dégénèrent comme celle-ci? Ben, venez nous le dire à partir de 13h sur Sud Radio.
Sud Radio, André Bercoff.
Ça balance pas mal.
Bercoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Eh bien, où sont les femmes? Eh bien, dans les stades, et c'est très bien. Maintenant, elles sont partout, au bon sens du terme. Elles sont dans tous les domaines, et on ne peut que s'en réjouir. Mais certaines veulent aller plus loin. Vous voyez, par exemple, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a présenté la 3e édition du sport féminin toujours. Voilà, bonne médiatisation du sport féminin, et c'est très bien. Et c'est très bien de le montrer, c'est très bien de le citer, tout ça. Mais on doit toujours compter avec Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a donné quelques éléments chiffrés. Alors, que dit Marlène Schiappa? Elle dit, en 2012, le sport féminin, c'était 7% des retransmissions sportives. En 2016, 20%. La trajectoire est encourageante. Et bravo. Et ça, on peut dire que bravo, bien sûr. Mais les femmes constituent 52% de l'humanité. Donc, nous demandons 50% des retransmissions à la télévision et la radio. Ce serait déjà un compromis. On pourrait se mettre d'accord sur ce chiffre. Alors, je vais vous dire, Marlène Schiappa, on peut faire ce qu'on veut. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que cette espèce de religion, cette espèce de dogme, cette espèce, je dirais, d'injonction des quotas? Alors maintenant, vous allez nous dire, allez, c'est très simple, pour les événements sportifs, 50% de sport féminin. Pour le cinéma, 50% d'acteurs femmes, 50% d'acteurs hommes. Évidemment, quand on fera quelque chose sur le Mont Athos, à le Mont Athos, il n'y a que des curés et des hommes. Ah non, mettez-nous des femmes au fond Athos, nous voulons des moignonnes.
C'est pas tout à fait exact ce que vous dites sur le Mont Athos. Alors d'abord, c'est une montagne sur laquelle il y a un monastère orthodoxe, c'est en Grèce. Oui. Effectivement, le seul genre féminin qui se trouve sur ce mont, ce sont les poules, parce que les moines ont besoin justement du jaune d'œuf pour faire leur fresque.
Et donc, c'est très bien. Donc, vous mettez les poules au niveau des femmes. Il s'appelle Jean-Marie Bordry, vous donnerai son adresse personnelle, comme ça vous pourrez y aller.
Délateur.
Et alors, non, mais c'est quand même hallucinant. Non, mais vous savez, au-delà de toute cette histoire, au-delà, c'est quand même extraordinaire. Est-ce qu'on ne pouvait pas, Marlène Schiappa, est-ce qu'on ne pouvait pas vous mettre dans votre cervelle que c'est pas comme ça que les choses se font, que ce n'est pas en fonction de 50% ceci, 50%. Alors demain, vous allez me dire, eh ben, il faudra pour les rouquins, tant, les blonds, tant, les gros, tant, les maigres, tant, les squelettiques, tant. Ça suffit, cet ordre moral que vous voulez absolument mettre, absolument, à la radio, à la télévision et partout, et vous ne le voyez même pas. C'est extraordinaire chez ces vertueux, c'est qu'ils sont tellement persuadés de leur instinct de justice, qu'ils vont faire des lois. C'est le côté polpotisation de sous-préfecture. Évidemment, ça n'ira pas. Voilà, heureusement, mais comme c'est les têtes au bout des pics, c'est sans mort. Et heureusement. Mais arrêtez avec vos discriminations positives. Arrêtez. Parce que vous savez ce qui se passe? Ce sera un de ces jours, si vous ne faites pas attention, une discrimination séropositive.
Sud Radio, Bercoff dans tous ses états. Lanceur d'alerte.
Ne m'appelez plus. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus.
Ben écoutez, Michel Sardou, hein, on a parlé très très longtemps, hein, du paquebot. C'est très très belle chanson. Hein. le France, ne m'appelez plus jamais France. Eh bien, en ce moment, on en parle de temps en temps sur cette France vendue à la découpe. On l'a reçue ici, sur Sud Radio, dans Mercov, dans tous ses états. L'auteur d'un livre remarquable là-dessus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on vend. Je ne sais pas si on brade, on vend. Par exemple, 3 industriels américains sont sur les rangs pour prendre le contrôle de Photonis, le leader mondial de la vision nocturne. Voilà. Safran et Thales ont décliné l'appel des pouvoirs publics à candidater, donc Photonis va aller chez un industriel américain. Déjà, la TECOR, comme vous le savez, c'est pas encore fait, mais c'est parti, ça va au fonds américain Searchlight. Et les députés commencent à s'agiter, bien sûr, parce que là, c'est la défense, hein. C'est pas le parfum, c'est pas des choses comme ça. Alors, Édouard Philippe dit, attention, nous on est très préoccupés, bien sûr, par ça. La TECOR, c'est quand même un des plus grands équipementiers aéronautiques du monde, hein. Il dit, mais l'Europe poursuit des objectifs ambitieux en matière d'attractivité de notre économie. Très bien, très bien. Alors, il y a une procédure de contrôle, etc. Seulement, le problème, c'est, voilà, on en est tellement à un degré de désindustrialisation qu'aucune option française, aujourd'hui, ils n'y vont pas, les Français. Ils ne veulent plus y aller. Ça montre où en année. C'est pas possible. Alors, on va créer un nouveau fonds d'investissement pour l'innovation dans la défense. Bravo, bravo. Mais en attendant, où est l'Europe? Où est l'Europe? Alors, on se disait, au moins, l'Europe, les 27, puisque l'Angleterre part, les 27 vont acheter français ou autres quand il s'agit d'avions. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Pologne vient d'officialiser l'achat de 32 avions de combat américains pour 4,6 milliards de dollars. Oui, la Pologne.
Sous la pression de Donald Trump et des États-Unis, on n'en parle pas beaucoup, mais la pression des Américains dans l'OTAN est énorme.
Et alors, on ne peut pas lutter?
Mais écoutez, si votre ami Trump n'est pas fair-play, effectivement, c'est un peu plus difficile.
Arrêtez de parler de mon ami Trump. Je veux vous dire, si l'Union européenne n'est pas foutue, franchement, si l'Union européenne n'est pas foutue de faire un marché elle-même et d'imposer, parce que Trump n'allait pas envahir ni la Pologne, ni l'Europe, si la Pologne a acheté des avions français, et ben voilà. Et alors, le gouvernement américain, lui, boycotte l'A330 ravitailleur d'Airbus. C'est quand même, je dirais, et encore une fois, pauvre Europe. Pauvre Europe, incapable de s'organiser même là-dessus. Je ne parle même pas de l'immigration, je ne parle même pas du reste. Incapable de s'organiser pour défendre les intérêts d'un de ses ressortissants. C'est quand même très grave.
Et 0826, pardonnez-moi, 0826, 300, j'ai trouvé ça tellement grave, vous voyez que j'étais complètement perdu, mon cher Berkoff. 0826, 300, est-ce que vous avez peur qu'on abandonne nos entreprises industrielles militaires françaises? Est-ce que la France part à la découpe? Est-ce que ça vous inquiète? Vous nous écoutez peut-être à Toulouse ou alors à Bordeaux, autour, il y a beaucoup d'entreprises aéronautiques qui font la fierté du pays. Ben, vous venez nous le dire à partir de 13h sur Sud Radio, nous on se retrouve dans quelques instants en compagnie de Berkoff, remontez comme un coucou aujourd'hui, à tout de suite.
Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Alors on va parler effectivement de la France qui marche bien, paraît-il. Et heureusement, enfin, en tout cas, on va écouter. On va parler d'Anne Hidalgo et de ses pistes cyclables très rapidement. Nous allons finir sur effectivement les perles de ce qui se passe avec les porcelets et les poussins. Et surtout, nous recevons Guillaume Debré pour un livre sur Trump. Vous savez, cet inconnu-là, on ne sait pas qui c'est, Trump, on l'entend parler de temps en temps. Et avec un titre qu'il a largement emprunté à Descartes, mais Descartes ne connaissait pas encore les réseaux sociaux, dommage pour lui. Ça s'appelle « Je tweete, donc je suis ». Et c'est pas triste.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour.
Il est toujours bon de temps en temps de parler des confrères et d'autant plus que ce sont des amis que je connais bien. Vous savez, c'est l'émission sur BFM de Brunet et Neumann. Éric Brunet et Laurent Neumann, tous les jours, font une émission sur BFM. Et alors, ils posent des questions et Brunet et Neumann sont censés se contredire et avoir des opinions radicalement différentes. Et alors, je ne résiste pas au plaisir de vous donner le sujet d'hier. Alors, c'était quoi le sujet d'hier de l'émission Éric Brunet contre Laurent Neumann? Selon vous, la France va-t-elle mieux depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Question tout à fait légitime. Eh bien, pour Éric Brunet, oui, elle va mieux, la plupart des voyants sont au vert. Pour Laurent Neumann, oui, mais les Français ne s'en rendent pas compte. C'est pas beau, ça. Quand on arrive à des émissions contradictoires comme ça, c'est franchement, c'est poétique, quoi. Ça nous fait plaisir, voilà. Donc, tout va bien en France.
Vous voulez que
merci
je l'apporte, la contradiction ?
Merci Neumann. Non, vous n'êtes pas Neumann, et heureusement pour vous.
Censeur. 0826-300-300. Est-ce que les médias soutiennent trop souvent Macron ? Vous venez nous le dire aussi à partir de 13h, en compagnie d'André Berkoff sur Sud Radio.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Oui, sauf que maintenant, hein, Yves Montand, vous connaissez, c'est plus à bicyclette maintenant, c'est à trottinette. Il faut éviter tout, les pistes cyclables, les trottoirs. Il y a, vous savez ce quoi ? Ça va être la solution finale du problème piéton. Absolument. On va finir avec les piétons. On n'en peut plus. Ça ne va plus. Vive IA. Les voitures. Les voitures, on va les supprimer aussi parce que franchement, ça fait désordre. Voilà. Alors, après avoir créé 300 km de pistes cyclables ces 6 dernières années, 300 km dans Paris, hein, je ne parle pas des autres villes de France, voilà, et avec la rue de Rivoli, on ne peut plus circuler. Eh bien, Anne Hidalgo va augmenter, si elle est réélue, écoutez-moi bien, en 2024, 100% des rues de la capitale seront cyclables. Absolument, 100%, formidable, un réseau 170 km, etc. Voilà, il faut mettre, d'ailleurs c'est très simple, il faut mettre des vélos à la place des voitures et il faut gagner de la place. Pour ceux qui ne peuvent pas circuler en vélo, bah écoutez, tant pis pour eux, ils se débrouilleront avec le métro, l'autobus, et puis sinon, ils n'ont qu'à aller à la campagne. D'ailleurs, Anne Hidalgo a compris, son maître à penser, c'est Alphonse Allais, il faut mettre les villes à la campagne, l'air y est plus pur. Eh bien, Anne Hidalgo, on va voir si les Parisiens vous suivront.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Alors pour une fois bravo, en tout cas, vous savez, on n'a pas l'habitude de saluer beaucoup les ministres, mais là on le fait, Didier Guillaume qui a annoncé ceci.
L'annonce que je ferai tout à l'heure, que je vous donne en primeur, c'est 2021 encore, comme le broyage des poussins mâles, fin 2021, il n'y aura plus de castration des porcelets à vif.
Voilà, alors ce qu'on ne savait pas, est-ce que peut-être certains d'entre vous savez, j'avoue que je ne savais pas qu'il y avait 27 000 porcelets en France castrés à vif tous les jours. Vous m'entendez ? 27 000 porcelets castrés à vif tous les jours. Écoutez, je ne suis pas un animaliste déchaîné, mais je trouve ça absolument immonde. Quant au broyage de poussins, chaque année en France, près de 50 millions de poussins mâles sont ainsi broyés vivants. Non, vous imaginez ? Mais c'est hallucinant quand même ça. Je veux dire, je trouve ça incroyable. Castrés à vif, broyés vivants. Pourquoi ? Parce que c'est des animaux, alors on fait n'importe quoi et après on se plaint. C'est terrible. Alors écoutez, Didier Guillaume, c'est bien qu'il ait fallu attendre 2020 pour parler de ça. Mais vous savez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et il n'a jamais trop tard pour supprimer ces atrocités, parce que c'est une atrocité.
Et je rappelle que Didier Guillaume est le ministre de l'Agriculture. 0826-300-300, pareil, à partir de 13h sur Sud Radio. Venez nous parler, tiens, de la condition animale et de la manière dont les animaux sont traités, notamment dans l'industrie agroalimentaire.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Et pour l'heure, on va parler d'un animal politique. D'abord, on reçoit notre invité, Guillaume Debray, chef du service News de TF1, qui a vécu 16 ans aux États-Unis, correspondant à Washington, journaliste à CNN, et qui nous présente son livre « Je tweet, donc je suis, l'art de gouverner selon Donald Trump », c'est publié chez Fayard.
Alors d'abord, deux choses, Guillaume Debray, je voudrais dire que j'ai lu ce livre, il est très amusant, il est très drôle, et puis effectivement, décrypté à partir des tweets de Donald Trump, c'est très bien. Mais j'imagine les affaires Dreyfus dans votre famille. Parce qu'il faut savoir que, et il le dit Guillaume Debray, il a épousé une Américaine, il a deux enfants. Son épouse et ses deux enfants sont plutôt anti-Trump, et assez anti-Trump, non c'est pas possible. En revanche, ses beaux-parents, son beau-père et sa belle-mère sont farouchement pro-Trump. Alors j'imagine les repas de famille, déjà, ça doit être pas mal. Mais ce que j'ai bien aimé, effectivement, c'est de prendre ça, le biais de cela, juste une petite anecdote personnelle, enfin une petite mémoire. Il y a exactement 4 ans, j'avais interviewé Donald Trump, c'était juste avant les primaires de l'Iowa, donc à la Trump Tower. Et je me rappelle quand je lui dis, il me dit, ouais, mon mouvement marche très 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 bien, exactement, janvier 2016 là. Et il me dit, mon mouvement marche très 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 bien. Je lui dis, mais c'est quoi votre mouvement ? Écoutez, vous commencez. Et il me dit, mon mouvement c'est Twitter, Facebook et Instagram. Et il m'a parlé de la désintermédiation. Alors Guillaume Debray, vous avez analysé rasé, d'ailleurs, vous dites, là, aujourd'hui, on en est à 13 421, on est plus maintenant.
Oui, plus maintenant. J'imagine.
Mais au fond, est-ce que ce n'est pas au-delà de ça, est-ce qu'il n'a pas inventé, peut-être, mais d'où est venu, à votre avis, cette extraordinaire innovation, il faut le dire, chez un homme politique de cette ampleur, d'utiliser l'arme des réseaux sociaux, c'est-à-dire la désintermédiation, plus d'intermédiaires?
Il a eu une intuition politique. C'est de dire qu'une partie de l'establishment politique, intellectuel et médiatique était coupée de la réalité américaine, que les Américains ne se sentaient plus représentés dans ces intermédiaires. Et il a trouvé un outil, Twitter, qu'il n'utilisait pas. Qu'il ait commencé à s'intéresser à la politique, à s'opposer à Obama et puis à lancer sa campagne insurrectionnelle. D'accord. Il n'avait pas compris l'utilisation de Twitter, il l'a compris de la même manière qu'il a compris que les Américains étaient en colère, qu'ils ne se représentent plus dans leurs institutions et que lui allait parler directement. Et vous savez, c'est pas le seul, c'est pas le premier. Souvenez-vous de Roosevelt. The Fireside Chat, les discussions au coin du feu. Il avait utilisé la radio, première fois. Kennedy, exact. Le président cathodique par excellence. Donc, il est disruptif, mais il a aussi un président intuitif.
D'ailleurs, vous utilisez très bien, il y a une citation formidable de Norman Mailer sur Kennedy. Et quand je l'ai lu avant de savoir de qui, je pensais que ça s'applique à Trump. Parce que c'est,
Mais Kennedy, quand il arrive sur la scène politique, alors il était déjà sénateur, et c'était un peu une partie de l'establishment, mais il avait des pratiques de communication révolutionnaires. Et Trump aussi.
Mais alors, cette théorie de la désintermédiation, c'est-à-dire supprimer les intermédiaires en deux mots, mais il y a 30 ans, j'avais qu'une idée, c'est acheter le New York Times, c'était le pouvoir. Aujourd'hui, je me fous totalement du New York Times, je vais directement.
Non, mais il dit aujourd'hui, Twitter, c'est ma propre rotative. J'ai plus besoin du New York Times, j'ai ma rotative, j'imprime mes nouvelles et les gens les lisent directement. Il a compris aussi, il y a effectivement le médium Twitter, mais il a compris une utilisation disruptive de Twitter. Il a compris ce que vous avez compris aussi, c'est que pour beaucoup de gens, le politiquement correct est insultant. Que le politiquement correct est un mécanisme de l'establishment, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'élite managériale, pour interdire la pensée inconvenante, la pensée qui vient d'en bas, la pensée qui dérange. Et lui, il a voulu être un candidat insurrectionnel, mais surtout le président du politiquement incorrect. Et ça, personne avant lui n'avait imaginé et n'avait osé le faire.
En fait, sortir, think out of the box, sort des limites, quoi.
Sortir des limites et surtout incarner la révolte à Washington depuis le bureau ovale. Et ça, c'est quand même assez transgressif.
Mais c'est extraordinaire, d'ailleurs, on va continuer à en parler, Guillaume Debré, on a le temps et on va le prendre, c'est que ce soit ce milliardaire qui est quand même dans le système jusqu'au cou, en tout cas qui était dans le système de cou, et qui veut le fiche en l'air, quoi.
Oui, mais alors, l'Amérique, c'est pas la France. Les Français ou les Américains ont le même rapport à Washington que les Français à Bruxelles. Ils détestent l'establishment politique. Et Trump n'a jamais fait partie de l'establishment politique. Il a fait partie d'un establishment de l'entertainment, d'un establishment du business. Oui, business, mais New York, c'est pas Washington. C'est différent. En France, Paris, c'est les deux. C'est New York et Washington. Et donc, il a fait un peu un bras d'honneur à Washington. Ce que je trouve intéressant, et moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, bien sûr qu'il y a de la dinguerie chez Trump, mais les Français sont obsédés par ça. Oui. Trump n'est pas que dingue. Il y a une rationalité, il y a une intuition. Et le comprendre, à mon avis, est intéressant parce que c'est un personnage fascinant.
Je crois qu'il faut sortir des œillères. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que vous faites. Et ce qui fait beaucoup l'intérêt de votre livre aussi, justement, vous n'êtes pas dans les préjugés et dans les œillères. On continue avec vous, Guillaume Debré, tout de suite après cela.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et nous continuons de converser avec Guillaume Debré sur ce personnage étrange venu d'ailleurs, Donald Trump, qui est évidemment 16 ans des États-Unis. Guillaume Debré le connaît bien. Et ce livre, vraiment drôle et très informé, je tweet donc je suis. En fait, vous disiez, Guillaume Debré, juste avant la fin de notre première partie, vous disiez, au fond, il n'utilisait pas cela. Il l'a utilisé, mais est-ce qu'il n'a pas utilisé aussi, c'est la partie, réelle, fond, phénomène, c'est qu'il a compris, il a touché le nerf de l'Amérique. Il a touché cette Amérique des oubliés, des laissés pour compte, de tout ça, qui est très importante. Mais alors, La question quand même est ça, comment un milliardaire new-yorkais, complètement people, tout ça, machin, Mar-a-Lago, qui a conquis Manhattan et compagnie, peut comprendre et a compris qu'il fallait comprendre ça.
C'est ce qui est formidable chez lui. C'est qu'il est effectivement coupé du monde. Il prend des jets privés, il ne fait pas la queue à l'hôtel, il a une résidence de milliardaire, donc il n'a pas de contact. Et pourtant, parce qu'il s'est senti, je fais de la psychologie, mais rejeté par l'establishment intello, élitiste, qu'il n'avait pas les codes.
Il est vulgaire, il parle mal, tout ça. Ouais.
Et
ouais,
donc, ouais, il a noué en lui cette colère et cette revanche qui résonne dans cette colère américaine. Ce qui est très intéressant dans chez Trump, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, nous, collectivement français, il a réussi à faire une proposition électorale qui réunit les victimes du libéralisme économique et les déçus du progressisme politique. Et ça, c'était pas intuitif. Il y en a qui sont à droite, il y en a qui sont à gauche. Il les a réunis pour faire une sorte de campagne insurrectionnelle qui a transcendé les clivages et qui a, honnêtement, qui a été disruptif pour les démocrates, mais pour les républicains. Parce que tout l'establishment de républicains se pinçait le nez quand il est arrivé avec ses cheveux peroxydés et sa cravate trop longue.
Mais rappelez-vous le tout sauf Trump. Ils ont dépensé des dizaines de millions, je parle des républicains, pour empêcher Trump d'arriver au pouvoir. Enfin,
Et lui était beaucoup plus en phase avec l'électorat républicain traditionnel, que l'élite ne l'était. Il ne voulait pas de cette espèce de candidat hors norme, truculent, vulgaire. Et il a réussi aussi, et ça c'est un coup de force, à incarner le politiquement incorrect. Et ça, pour les gens, c'est mes beaux-parents dont vous parliez, mes beaux-parlants, ils se reconnaissent dans Trump parce qu'ils détestent Washington. Et quand mon beau-père vient me voir et me dit « Tu comprends, Trump, il va sauver l'industrie automobile américaine. » Et je lui dis « Mais David, mais toute ta vie, tu as conduit des Mercedes et des Toyota. Et pour toi, c'est important de... » Mais oui, il a redonné un sentiment de fierté à certains électeurs qui n'avaient plus confiance dans la capacité de Washington, de la classe politique, à défendre les intérêts des Américains.
Oui, ça, c'est très intéressant. Mais alors, justement, Guillaume Ménard, vous êtes ici, vous êtes effectivement au news, patron des news de TF1. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, est-ce qu'on n'attend pas un peu, on n'attend pas, en tout cas, un certain nombre de gens en Europe attendent l'équivalent européen ou français de Trump ? Est-ce qu'il n'y a pas cette attente ? Regardez le populisme.
Bien sûr qu'il y a cette attente. Il y a, d'ailleurs, on pourrait dire que Salvini, ou Boris Johnson, ou Orban, ou Narendra Modi en Inde, il y a ces hommes politiques qui ont compris le besoin de reformuler une narration politique qui donne un sentiment de protection à la classe moyenne. Ça, c'est évident. Et je pense qu'en France émergera une proposition électorale à un moment donné. Le problème quand même, il faut le dire, c'est que Trump... Là encore, je le vois dans ma famille ou ma belle famille, il a soufflé sur les braises de la division. Il a fait exploser le corps social. À chaque fois qu'il y a un clivage, à chaque fois qu'il y a un problème de société, il hystérise les débats. Il a mis le corps électoral dans un niveau de stress politique permanent qui a quand même des conséquences sociales très importantes. Les Américains, maintenant, sont à fleur de vie. Ils ne se parlent plus, ils ne s'entendent plus. Et quand ils se parlent, c'est du pugilat.
Mais alors franchement, Guillaume Debré, est-ce que ce n'était pas avant de l'hypocrisie ? Est-ce que ce n'était pas une fausse union, en tout cas un faux consensus comme on l'en connaît en France et ailleurs, qui masquait des divisions profondes. Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui.
Non mais vous avez raison, il y avait deux Amériques déjà.
Elles existaient
avant Trump. Mais avant, d'abord il y avait une certaine civilité dans les débats politiques et elles ne s'entendaient pas, elles s'écoutaient. Aujourd'hui ces deux Amériques, quand elles se parlent, elles se hurlent dessus. Ça va avoir des conséquences compliquées entre eux. Les bobos californiens qui travaillent dans la Silicon Valley et la classe rurale du Mississippi.
Du Midwest, exactement.
Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les débats sont très compliqués. Alors, c'est vrai que c'est aussi la vie démocratique d'avoir ça. Mais il va falloir reconstruire, après Trump, une narration politique qui réunit plus que qui divise. Et ce président, et c'est ça, je pense, le coût social pour l'Amérique, il divise énormément les Américains.
C'est vrai, mais en même temps, comme vous le dites vous-même, enfin, ce n'est pas le sujet de votre livre, mais quand même, vous en parlez, ces résultats économiques, en tout cas pour le moment, sont remarquables. Il faut le dire.
Ils sont
le chômage, le pouvoir d'achat, etc., etc. Mais pour revenir ici, quand vous dites « je tweet, donc je suis », et encore une fois, je recommande vraiment ce livre parce que vous racontez des exemples incroyables, mais comment il engueule les gens qu'il a engagés, disant « oui, toi, t'es nul », deux jours après, allez, dégage, quoi. Et il le dit publiquement, quoi, il n'attend pas. Est-ce qu'à votre avis, l'Amérique n'est évidemment pas la France, mais est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, vous le voyez comme moi, ces espèces de partitions, d'archipélisation en France, alors les réseaux sociaux, pour parler de Twitter et compagnie, est-ce que ça joue quand même un rôle aussi important ou presque aussi important en France qu'en Amérique ?
En tout cas, je pense que collectivement, on s'incarne dans un président de manière un peu différente des Américains. On a une tradition féodale, on a une tradition aristocratique, monarchique donc, et on regarde l'institution du pouvoir de manière un peu différemment. Ce qu'ont pas les Américains. Les Américains, ils ont une capacité à innover politiquement qui est quand même formidable. Ils passent de George Bush à Barack Obama à Donald Trump.
C'est vrai.
Nous,
c'est pas mal.
On est passé quand même de Chirac à Macron à Hollande, de Chirac à Sarko à Hollande à Macron. On est quand même dans une classe politique qui a les mêmes codes. C'est pas très disruptif comme, comme. Donc eux, ils ont cette capacité de se réinventer électoralement à chaque cycle, ce que je ne crois pas. Alors ils ont un mode de scrutin qui le permet. Hein.
Oui,
après, ils ont aussi quand même des institutions. Vous savez le respect que j'ai pour les institutions de la Ve République, mais la Constitution américaine a institutionnalisé la division du pouvoir et les contre-pouvoirs. Et donc, ouais, quand même, faut
il y a
le voir,
de vrais contre-pouvoirs.
De vrais contre-pouvoirs. Et donc, la déflagration politique de Trump, elle n'a pas mis à bas le système constitutionnel américain.
Exact.
En tout cas, pendant 4 ans. S'il en fait 4 de plus,
on verra.
Et ça, nous, on n'a pas ce même contexte institutionnel qui change quand même la donne. Après, est-ce que la société française est en train de se fragmenter comme la société américaine? Oui, mais chez eux, c'est beaucoup plus assumé. Ils ont un communautarisme où ils acceptent la fragmentation. Là, elle est vraiment profonde. Chez nous, c'est plus feutré. Alors, il y a des particularismes qui commencent à émerger. Il y a une discussion autour du communautarisme qui est très crispé. Et ça fera peut-être émerger, effectivement, une nouvelle proposition électorale.
C'est là où ça va être très intéressant. Et alors, justement, je voudrais qu'on parle... Les réseaux sociaux jouent-ils, évidemment, toute proportion gardée, jouent-ils le même rôle en France qu'en Amérique?
Oui, je pense qu'ils jouent le même rôle. En fait, ils ont comblé le vide qu'a laissé les médias traditionnels et ils créent des bulles d'opinions politiques. En fait, les gens n'écoutent plus que les opinions qu'ils ont envie d'entendre à travers ces réseaux sociaux.
Ils écoutent leur blog, leur camp, leur communauté
politique.
Etc.
Non pas dans le sens identitaire, mais dans le sens de communauté politique. Et donc, il y a moins de liens, La télévision, c'est du lien social comme l'est la politique. Et donc, si on regarde moins la télé, on partage moins, non pas des ondes positives pour reprendre le slogan TF1, mais on partage moins de référents communs. Et donc, c'est vrai que les réseaux sociaux sont en train de morceliser un petit peu l'archipel français, pour reprendre un titre bien connu. Et donc là peut-être qu'émergera, effectivement, un leader politique qui sentira ça et rassemblera ses déçus de...
Et alors, pour revenir au fond et à Trump Twitter et à Trump, effectivement, qui parle, encore une fois, j'insiste sur ce mot de désintermédiation, parce que je ne sais pas si c'est lui qui a trouvé le concept, en tout cas, ou on le lui a soufflé, mais c'est vraiment ça. D'ailleurs, il me l'avait exprimé. Vous savez, quand je l'ai vu, il y avait un numéro de Time spécial sur lui, sur Trump et désintermédiation, je ne sais plus que le journaliste. Et il était très fier, vous savez, il montre toujours... Derrière son bureau est tapissé uniquement des journaux qui parlent de lui, quoi. C'est Narcisse à la puissance 100 000 et quelques. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Je voudrais avoir votre opinion là-dessus, Guillaume Debray. Vous savez, De Gaulle, en 58, est arrivé à trahissant ceux qui l'ont porté au pouvoir. C'est l'Algérie française qui l'a porté au pouvoir. Et avec, il est homme d'État parce qu'il a dit, oui, on ne va pas faire l'Algérie française, on va faire autre chose, etc. Trump a quand même trahi son milieu, même s'il était marginal, il était quand même, c'est vrai, réuni tous ces braves gens, ces milliardaires, il les recevait dans les hôtels Manhattan, il les recevait à New Jersey, dans les casinos de Atlantic City et compagnie, bien, même s'il n'était pas totalement... Est-ce que le problème, je ne parle pas de problème, mais est-ce que Macron et les autres, nos présidents français, après, sont restés effectivement prisonniers du système? Est-ce que ce n'est pas le problème? Trump a réussi à... non pas à l'exploser, mais à en sortir.
Je suis d'accord, il a fait exploser le système et personne n'imaginait que le système pouvait exploser de cette manière. Je suis moins d'accord sur la trahison, parce que Trump, c'est un personnage complexe, il a un petit côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et effectivement, vous lisez ses tweets, vous avez l'impression que la planète est à feu et à sang, qu'il va bombarder tout le monde, et que le pays est en train d'exploser et qu'il insulte tout le monde. C'est le président, tenez-vous bien, le moins belliqueux, le président américain le moins belliqueux des 40 dernières années. C'est le seul président qui n'a pas ouvert de front. Obama avait envoyé 50 000 soldats en Afghanistan. Exactement. Il n'a pas mis un seul GI de plus sur un conflit extérieur. Ça, c'est pas intuitif. Donc, il a une manière de s'exprimer qui n'est pas exactement sa politique. Et donc, en politique intérieure, à ça, il vous a remis du protectionnisme et de la barrière, et je monte les muscles, et je mets ce que vous avez sur la table. Ouais. Mais il a quand même fait appliquer une politique très libérale. Il a baissé les impôts sur les plus hauts salaires, il a baissé les impôts sur les sociétés, il n'a pas fait la promesse de rehausser le salaire minimum, il n'a pas investi 1000 milliards de dollars dans les infrastructures comme il avait promis. Ouais. Et toutes ces promesses qui avaient quand même structuré
sa campagne
et rallié beaucoup de cols bleus, il y a un moment donné où...
Et ça s'appelle, Guillaume Debray, The Art of the Deal, l'art de la négociation, son livre maître.
Et en tout cas, on continuera à en parler avec vous. On est toujours avec Guillaume Debray, donc auteur de ce livre « Je tweet, donc je suis, l'art de gouverner selon Donald Trump », c'est publié chez Fayard. On est avec André Berkoff aussi, 0-826-300-300. Est-ce qu'il vous fascine, ce personnage de Donald Trump? Tiens, est-ce que vous aimeriez avoir un Donald Trump français ou est-ce qu'au contraire, il vous dégoûte? Mais dans un cas comme dans l'autre, vous venez nous le dire. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio, juste après les informations. À tout de suite.
Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Aujourd'hui, Descartes s'appelle Donald Trump et habite Washington. Vous croyez pas ? Oui, je tweete, donc je suis. Ce n'est plus je pense, donc je suis. Guillaume Debray l'explique. Et vous, les auditeurs de Sud Radio, et de Berkoff dans tous ses états. On vous attend.
Et je rappelle que je tweete donc je suis l'art de gouverner selon Donald Trump et publié chez Fayard. 0-826-300-300. Vous prenez la parole et vous réagissez à tous les sujets qu'on a pu aborder au cours de l'émission en compagnie d'André Berkoff. On trouve Alexandre tout de suite.
Oui, bonjour Alexandre.
Oui, bonjour. Juste une seconde, s'il vous plaît.
Je vous en prie. Ne tardez pas trop quand même parce que vous êtes à l'antenne. Et nous aussi. Hein.
C'est le haut-parleur. J'ai coupé le haut-parleur.
Ah ben, vous avez bien fait.
Vous avez bien fait.
Écoutez, alors on vous écoute, Alexandre. Oui.
Je voulais intervenir sur les violences entre les pompiers et
les policiers. Oui.
Mais en même temps, tout est lié, vous savez, Internet, les réseaux, tout est lié et ça a commencé il y a très 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 longtemps, quelques dizaines d'années.
Oui.
En résumé, c'est difficile à résumer, c'est très difficile.
Mais allez-y, essayez, je suis sûr que vous y arriverez.
J'ai passé ma vie dans l'informatique,
ouais.
Même si je n'y ai plus que les deux bras au lieu de les deux bras et les deux jambes.
Ouais.
J'ai vu la naissance d'Internet, j'ai participé à tout ça.
Ouais.
On rêvait d'un Internet libre où les gens seraient suffisamment intelligents pour s'autoréguler. On avait une éthique à l'époque même, une manière de s'exprimer sur Internet, une éthique, des règles, tout ça a volé en éclats. C'est devenu, j'estime, la plus grande déchetterie de la planète. Et Internet aussi a apporté des choses auxquelles on ne pensait pas du tout. Mmh. Cette volonté de... une fenêtre, un écran sur des tas de choses que l'on sentait mais qu'on ne voyait pas forcément. Il se trouve qu'il y a un petit pays où l'on n'a pas, il y en a sûrement d'autres, hein, mais moi j'en connais un,
oui.
Où il n'y a pas les dérives que l'on connaît.
Et c'est lequel ?
En France, j'ai modéré des groupes de gilets jaunes, je peux vous dire que j'en ai vu. C'est la Suisse.
La Suisse, ouais.
C'est la Suisse. Ce genre de manifestation et de violence que l'on voit en France, ça n'existe pratiquement pas en Suisse. Macron a dit non à deux revendications, surtout une essentielle.
Le référendum.
Voilà. Sauf que je pense qu'il y a quand même une multitude, une grande majorité de Français qui aimeraient, mais ils ont peur de ça. Ils n'ont pas l'habitude. Mmh. Et en plus, ça va à l'encontre de l'UE. C'est pour ça que la Suisse n'en fait pas partie. La population suisse.
Oui, et ils ne sont pas dans l'Union européenne, effectivement. Ouais.
Si vous voulez que les gens adhèrent, acceptent l'impôt, les taxes, les lois, etc., il faut que ce soit eux qui décident, quoi, fait.
Le gouvernement, c'est par le peuple, pour le peuple, c'est la Constitution.
Oui, à partir du moment où je décide, je dis oui à un impôt, quoi de mieux pour adhérer, quoi. Ce qui se passe en Suisse.
Oui, Alexandre, juste, je veux faire réagir Guillaume Debray là-dessus. Effectivement, il y a un problème, on l'a vu, ce problème démocratique, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, on peut dire ce qu'on veut, mais enfin, s'ils sont aussi importants et à mon avis nécessaires, c'est parce que malheureusement, il y a un manque. On l'a bien vu, rappelez-vous le référendum 2005 sur la Constitution européenne, 55% des Français votent contre, on s'assied dessus, on fait Lisbonne. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport justement à la démocratie américaine que vous avez bien vu fonctionner?
La démocratie américaine, elle a le même problème que la démocratie française, exprimé différemment. La révolte des Gilets jaunes, c'est l'élection de Donald Trump. C'est le même électorat qui fait un bras d'honneur à l'élite politique. Mais les Américains, dans leur système, ils ont institué le référendum. Mais le référendum, il se fait au niveau local. Et à chaque élection, nous, correspondants étrangers, correspondants européens qui couvrons les élections américaines, on se focalise sur les présidentielles, sur les élections au Sénat. Mais à chaque fois qu'il y a des élections, il y a 40 ou 50 questions pour les électeurs à répondre sur...
À chaque élection.
À chaque élection, en fonction des États.
Oui, bien
certains
sûr,
le font plus que d'autres, mais en Californie, où je vais régulièrement, en Californie, ils décident de savoir si on a le droit d'autoriser la législature à avoir des déficits publics.
Ah bon. C'est un référendum.
Est-ce qu'on va interdire aux gens de fumer près des écoles? C'est des référendums, ce sont des questions référendaires.
Chaque fois, à chaque élection.
Et donc ça fait une vie locale
très forte.
Et le centre en fait, de la politique aux États-Unis, il n'est pas à Washington, il est dans les États, il est au niveau local. On ne le couvre pas parce que ça nous intéresse moins. Et c'est ça peut-être la piste de réflexion, parce que le référendum national, il est compliqué à appliquer, mais le référendum local... On n'a pas cette pratique, mais on pourrait l'imaginer un peu au modèle suisse.
C'est-à-dire, effectivement, en fonction... Merci Alexandre, c'était une bonne intervention et vous avez mis le doigt sur quelque chose qui ne fonctionne pas très bien chez nous, c'est clair.
Et on vous souhaite une bonne journée dans la Drôme, Alexandre. 0826-300-300, on part dans le Val d'Oise, on retrouve Patrice.
Patrice, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, Patrice, on vous écoute.
Je voulais intervenir sur la question des... peut-être pas très importante dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens, mais sur la question de la commande des avions de chasse polonais aux États-Unis.
Bon.
Oui. C'est tout de même une question très importante si on y regarde de près, parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit.
Certes.
On se souviendra peut-être que une première fois, les Polonais avaient commandé leurs avions de chasse aux Américains très peu de temps, pratiquement le lendemain de leur adhésion à l'Europe. Que les Américains essayent de vendre leurs avions partout dans le monde, ça c'est pas étonnant, on ferait la même chose.
Bien sûr.
La même chose qu'eux. Mais il faut comprendre, le timing à l'époque, c'était une sorte de provocation, parce que le lendemain même de l'adhésion à l'Europe, c'était, bah, vous voyez, l'Europe pour nous, ça ne signifie pas grand-chose politiquement.
Ouais.
Nous commandons nos avions aux États-Unis parce que nous sommes atlantistes. Et pour qui connaît la Pologne, ce qui est un peu mon cas, et comme beaucoup de pays de l'Est, ce sont des gens qui sont profondément atlantistes.
Bien sûr.
Depuis la guerre.
Bah, ils ont connu le système communiste pendant 70 ans, c'était pas vraiment leur tasse de thé.
Nous y voilà bien. C'est d'ailleurs un reproche un peu sous-jacent qui se fait vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest, c'est qu'on les a laissés, d'après eux, on les a laissés tomber pendant des dizaines d'années.
Oui.
On n'a pas véritablement agi pour les libérer, entre guillemets. Bon, à tort ou à raison, c'est ce qu'ils ressentent. Donc, et à l'époque, quand ils ont commandé leurs avions aux États-Unis, il n'y a pas eu un dirigeant européen, je parle de l'Ouest, y compris les Français, pour protester violemment contre cette provocation. Parce qu'il y avait deux pays qui pouvaient leur fournir ces avions de chasse, c'était les Français, excusez-moi du peu,
bien sûr, les
Suédois. Bon, qui avaient d'ailleurs des avions, les deux, beaucoup plus adaptés au but de défense polonais que les F-14 américains à l'époque. Bon.
Mmh.
Donc, et ça, c'est un problème qui va bien au-delà d'un problème économique. Mais... c'est une question de philosophie politique, parce que la grande erreur de l'Europe, c'est d'avoir laissé de manière indéfinie ouvert aux pays d'Europe de l'Est, sous la pression d'ailleurs de la diplomatie secrète, c'est un secret polichinelle, la diplomatie secrète des Américains et des Anglais d'ailleurs, parce que les Anglais ça reste tout de même une sorte de succursale américaine en Europe.
Oui, ça y est, en tout cas ils sont partis eux.
Ah oui, mais bien sûr, maintenant, oui, mais à l'époque, maintenant. Non.
Oui, je sais.
À l'époque, au contraire, les Américains poussaient justement à l'intégration des Anglais dans l'Europe parce que c'était le meilleur moyen de contrôler l'Europe. Oui, ils ont parfaitement réussi.
Oui, juste, Patrice, ce que vous voulez dire en quelque sorte, c'est par rapport à ça, et vous avez, et c'est vrai que votre analyse est tout à fait fondée, c'est qu'effectivement, on se demande quelle Europe et de quelle Europe, c'est pour ça que j'ai soulevé ce problème dans l'émission.
Et vous avez raison.
Et de quelle Europe on parle, quoi.
C'est une erreur fondamentale que nous n'avons pas fini de payer, que nous paierons encore longtemps, parce que ça a mis une pagaille extraordinaire en Europe.
Ouais.
Tout le monde, toute notre opinion publique le comprend maintenant. Ça ne marche pas et on va traîner ça pendant des années et des années.
Guillaume Debray,
je suis à l'origine européen convaincu, Patrice, je le regrette.
Oui, absolument. Guillaume Debray.
Mais Patrice, j'ai une question parce que moi je trouve par des formations professionnelles qu'on blâme l'Europe à tout va, c'est toujours l'Europe. Mais blâmons les Français. Est-ce que nous, Français, collectivement, on est prêts à aller se battre pour la Pologne? Est-ce qu'on a été prêts à aller se battre pour l'Ukraine quand ça s'est passé? Est-ce qu'on a envoyé les premiers des soldats en Bosnie? Alors Chirac a un peu, mais en ex-Yougoslavie. Est-ce qu'on a, nous, Français, hein, on ne va pas blâmer l'Europe, est-ce que nous, on a estimé que la Pologne ou les pays de l'Est sont un intérêt vital pour notre patrie?
Vous avez posé la question, vous avez répondu la question en la posant, mais de toute façon, j'y réponds exactement de la même manière que vous. C'est une faiblesse politique extraordinaire, une concession inadmissible et surtout une trahison de l'Europe. Je suis parfaitement de votre avis, j'ai bien compris ce que vous pensiez en posant la question, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est extrêmement triste et extrêmement dommageable. Voilà pourquoi ce n'est pas seulement une question économique, ce qui s'est posé là, c'est une question de philosophie profonde. Bah, on trahit, tout simplement, on a trahi nos idéaux. J'ai rien d'autre à dire.
Merci Patrice, merci de votre analyse.
Et vous serez toujours le bienvenu sur Sud Radio 0826 300 300. On retrouve Mickaël tout de suite.
Oui, bonjour Mickaël.
Oui, allô, bonjour. Bonjour à toute l'équipe, bonjour Monsieur Berkoff.
Bonjour.
Du coup, moi, ce serait pour dire que j'étais pour un Donald Trump, je serais pour un Donald Trump français s'il y en avait un. Malheureusement, je pense que sur la scène politique actuelle, ça va être compliqué de
l'attendre
maintenant, quoi. Ouais, c'est ça.
Ouais.
Je pense que ce sera plus, je dis n'importe quoi, peut-être 2022 ou un petit peu avant, mais... Je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué.
Vous voulez dire que...
On est d'accord que Donald Trump, au niveau économie, il est libéral, et du coup, comment on pourrait dire ça, au niveau de la politique intérieure, il est plus conservateur, c'est ça, si je comprends bien.
Il est à la fois, si vous voulez, protectionniste, souverainiste, patriote. Si on peut employer ce mot, oui, il est souverainiste, quoi. Simplement, il est libéral, c'est un homme d'affaires, il ne l'a pas oublié, mais au bon sens du terme, effectivement. Et dites-moi, vous ne croyez pas, et je vais poser aussi la question évidemment à Guillaume, vous ne croyez pas quand même que est-ce qu'à votre avis, c'est impossible que surgisse d'ici 2022, peut-être plus tard, un Trump français, un ou une d'ailleurs, c'est pas le problème, mais de quelqu'un qui justement prend en compte cette France, comme Trump l'a fait pour l'Amérique, des ignorés, des oubliés, des laissés pour compte, qui sont quand même 55% des Français, je le rappelle.
Bah, je pense que c'est possible. Après, le problème, c'est le paysage politique français. Comment il pourrait, surgir, entre le Rassemblement national, entre Emmanuel Macron, etc. C'est ça aussi, la place politique qu'il aura. Est-ce que ce sera dans un parti? Est-ce que ce sera hors d'un parti? Comment ça va se passer, etc. C'est plus ça que je me pose comme question, quoi. Parce que le Rassemblement national, aujourd'hui, il fait quand même des gros scores, etc. Du coup... S'il y a quelqu'un qui sort et qui a, on va dire, la même ligne presque que le Rassemblement National, c'est-à-dire patriote, etc., ça va être compliqué
Justement, on va demander à Guillaume Debray, qui nage entre les deux nations, mais enfin maintenant il est à Paris, et Dieu sait. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume ?
Moi j'aimerais surtout, alors sûrement c'est possible, il faudra que ça soit une offre politique qui soit mûre, mais j'aimerais demander à Mickaël, qu'est-ce qu'il attend d'un Trump français? Qu'est-ce qui lui plaît chez Trump, le Trump américain, qu'il aimerait retrouver dans un candidat français?
Moi, je pense que Trump, avant tout, pour moi, c'est quelqu'un qui défend l'Amérique. Donc, comme il a dit, « Make America Great Again », « America First », etc. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a l'Union européenne. Et l'Union européenne, je pense, malheureusement, que... cette technostructure est contraire aux intérêts français, je le pense, après c'est que mon avis, mais du coup je pense que ça va être compliqué de, on va dire, d'avoir quelqu'un qui dirait France first ou quelque chose comme ça, quoi, la France d'abord, on va dire. Ouais. Et l'Union européenne de l'autre côté qui s'y opposerait, etc. Donc ce serait, je pense que ce serait compliqué, quoi.
En tout cas, Michael, vous avez mis le doigt sur la force politique de Donald Trump. C'est qu'il a déplacé le débat politique, le centre de gravité du débat politique, vers une notion quasi existentielle qui est l'avenir de l'Amérique et faire de l'Amérique une nation forte.
Voilà, Guillaume Debré, merci.
Et merci à vous tous d'abord de nous avoir appelés sur le 0826-300-300. Alexandre, Patrice, Mickaël, nos excuses à Patrice, on n'a pas eu le temps de vous donner la parole, mais promis, on se rattrapera. C'est une, non pas Patrice, mais Franck, pardon. Promis, on vous la redonnera plus tard chez André Berkoff sur Sud Radio. Je rappelle la référence de l'ouvrage de Guillaume Debré. Je tweete, donc je suis l'art de gouverner selon Donald Trump, c'est publié chez Fayard. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à André Berkoff, un autre tweetos addict, hein, on pourrait le dire comme ça.
Presque compulsif.
Presque compulsif, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Merci à vous André Berkoff, on retrouve demain à midi en direct sur Sud Radio dans tous vos états. La suite de la journée avec Jacques Pessis pour les clés d'une vie qui reçoit l'explorateur Jean Raspail. Belle journée à vous sur Sud Radio.